Le magazine des Nations Unies. Bienvenue au magazine des Nations Unies. La une de ce dimanche nous conduit d'abord au Katanga. La situation humanitaire à Nitouaba est préoccupante et les populations déplacées sont confrontées à d'énormes difficultés. Ces propos appartiennent au représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies et coordonnateur des actions humanitaires que vous suivrez dans quelques instants. L'actualité, c'est aussi la fièvre hémorragique d'Ebola. Que signifie ce concept? Quelle est l'origine du mot Ebola? Voilà, entre autres, des questions auxquelles va répondre un expert de l'OMS dans la rubrique décryptage d'aujourd'hui. Et puis, comme invité ce dimanche, nous recevons l'officier des opérations UN Matagoma. Avec lui, nous parlerons de l'appui logistique de la MONUSCO à l'opération de destruction des engins non explosés au Nord Kivu. Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine. Bonjour et merci de nous rester fidèles. Comme annoncé dans le sommaire, la situation humanitaire à Nitouaba est préoccupante et les populations déplacées sont confrontées à d'énormes difficultés. C'est le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies et coordonnateur des actions humanitaires qui l'affirme. Fidel Sara Soro s'exprimait après sa visite dans cette partie de la province du Katanga. Il déclare également que certains combattants Maïmaï actifs dans le coin seraient disposés à rendre les armes. En outre, la population locale, les humanitaires et autres ONG de droits de l'homme souhaitent la présence des casques bleus pour leur assurer la sécurité. Mais comment la MONUSCO compte-t-elle s'y prendre? Fidel Sara Soro répond au micro de Jean Gandou.
Nous allons saisir la section DDA de la MONUSCO et voir dans quelle mesure les éléments de la MONUSCO pourront se déployer le plus rapidement possible sur le terrain pour examiner avec les autorités provinciales et les autorités de Nitouaba les conditions de désarmement de ces Maïmaïs. Apparemment, la présence de la MONUSCO serait de nature à rassurer les uns et les autres, permettre un déploiement un peu plus considérant des sections de la MONUSCO, des affaires civiles, les droits de l'homme pour faire et suivi sur les cas de violation. Je pense que ce serait quelque chose à envisager, donc je vais en discuter avec mes collègues à Kinshasa. Et évidemment, il faudrait voir également la position des autorités gouvernementales au niveau national, voir si c'est quelque chose qui est faisable. Il faudra vous rendre compte que depuis les événements au Nord Kivu, il y a eu une pression énorme sur l'effectif de la MONUSCO. Ils sont engagés également là-bas en soutien au FRDC. Et donc, ce n'est pas toujours facile de déployer des bases dans d'autres zones, parce que déployer une base ici, c'est fermer une base ailleurs, mais c'est quelque chose que vous avez connu.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
15 cas déclarés, dont 10 décès, bilan officiel de l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola observée actuellement dans la province orientale. Ces chiffres rapportés au 20 août dernier sont de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Fièvre hémorragique Ebola, le docteur Vital Mondongue, chargé de la lutte contre la maladie à l'OMS RDC, donne justement le sens à ce concept dans cette émission. Il est joint pour cela au téléphone par Honoré Missenga.
Docteur Vital, bonjour.
Bonjour.
Le gouvernement congolais a officiellement déclaré la présence de la fièvre hémorragique Ebola dans le pays, précisément en province orientale. Ce n'est pas une nouvelle maladie, l'épidémie a déjà frappé le pays par le passé. D'abord, docteur, pourquoi cette fièvre est dite hémorragique?
Oui, la fièvre hémorragique virale, c'est une fièvre due à un virus. Et généralement, c'est une maladie animale. Le réservoir régulièrement évoqué, c'est le chauve-souris. Donc, c'est une maladie aussi qui attaque parfois certains animaux comme les singes et ainsi de suite. Et dans notre écologie, ici en RDC, comme dans la plupart des pays d'Afrique, il y a ces genres de maladies qui sont là. Et chaque fois que l'homme, dans ses activités habituelles, il va à la chasse, il peut tuer les animaux ou ramasser les animaux morts, il peut arriver à être contaminé. Et lorsque la personne contaminée rentre dans le village ou dans son milieu d'habitation, il peut alors contaminer les autres. C'est à partir de ça que cette maladie se répand dans la population.
Oui, donc la caractéristique principale, c'est l'hémorragie.
La caractéristique principale de la maladie, c'est la fièvre associés à des signes hémorragiques dans le corps.
Quels sont ces signes, docteur?
Bon, ça dépend des organes qui sont touchés par l'hémorragie. S'il s'agit par exemple des yeux, vous allez voir que les yeux sont rouges sous forme de conjonctivite. Si c'est les nez, on peut avoir des écoulements du sang au niveau du nez ou dans la bouche. S'il s'agit par exemple du système digestif, on peut avoir des diarrhées sanguinolentes, on peut avoir des vomissements du sang. Si c'est la peau, on peut avoir des taches noirâtres qui peuvent être sous forme de petits chiffres. Ainsi de suite. Et tous ces taches-là sont associés à une forte fièvre qui ne répond pas au traitement médical habituel, notamment les antipyrétiques et ainsi les antibiotiques.
Docteur Vital Mondombe, alors pourquoi a-t-on collé à cette fièvre le nom Ebola?
Ok, on a donné à cette maladie le nom d'Ebola parce que c'est une souche qui a été découverte dans une rivière dans la province Équateur, la province de l'Équateur, à côté de Bumba, à côté de Yambuku. Il y a une rivière qui passe par là qui s'appelle Ebola. C'est comme ça qu'on a donné à cette fièvre Ebola, parce que c'est une souche qui a été découverte. C'est une fièvre virale, bien sûr, mais il y a plusieurs souches de virus. La souche Ebola a été découverte là-bas.
En quelle année?
Si ma mémoire est bonne, c'est déjà en 1977.
Oui, avant de cette souche-là, il y a d'autres souches, on peut les connaître.
Oui, il y a d'autres souches. Il y a la souche Soudan, et la souche Bundibugyo. Ce sont des souches qui sont les plus courantes. Donc Ebola Soudan, c'est magique Ebola, et vous avez la fièvre hémorragique, la souche Soudan, et il y a aussi Bundibugyo.
Donc la différence entre ces souches, c'est au niveau de la virulence?
Bon, bien sûr, la différence au niveau de la composition génétique du virus, mais aussi au niveau de la virulence, oui.
Docteur, depuis l'apparition du virus d'Ebola, on ne parle que de la prévention. Est-ce que l'OMS met en place des mécanismes de traitement? Est-ce qu'on peut envisager aussi un vaccin contre le virus d'Ebola un jour, par exemple?
Bon, les études sont toujours en cours par rapport à la vaccination pour la plupart des maladies virales. Mais pour le cas d'Ebola, jusque-là, nous n'avons pas encore des perspectives concluantes pour annoncer la vaccination pour le moment.
Donc pour le moment, la solution, c'est dans la prévention?
Oui, pour le moment, la solution, c'est vraiment dans la prévention.
Et qu'est-ce qu'il faut faire concrètement?
Lorsque nous ne sommes pas en maladie, lorsqu'il n'y a pas d'épidémie, ce que nous devons faire, c'est par exemple la surveillance de notre faune. Généralement, il y a une surveillance qui se fait au niveau des animaux. Cette surveillance doit continuer, connaître un peu les espèces qui se passent et savoir s'il y a par exemple des animaux morts. Il faut toujours chercher à savoir à cause de quoi ces animaux meurent, parce qu'ils sont souvent les signes prescripteurs d'une épidémie qui peut arriver. Alors, si jamais on arrivait à avoir un cas d'Ebola et qu'il y a des cas au niveau de la population, il faut maintenant que les membres de la communauté, toute la population, sachent se comporter pour éviter la contamination. D'abord, ils doivent savoir qu'ils ne doivent pas manger les animaux trouvés morts sans une raison évidente. Et puis, tout ce qui est gibier, si c'est apporté au niveau du ménage, dans la préparation, les ménagers doivent bien préparer et prendre certaines précautions dans la manipulation pour ne pas se faire contaminer. Mais lorsque aussi ils sont en face des malades, quand on voit qu'il y a quelqu'un qui a la fièvre, qui a des signes hémorragiques, il ne faut pas les toucher. Il faut tout de suite informer le service médical et l'orienter vers le service médical. Il va bénéficier de l'isolement et de la prise en charge. Une autre chose importante, c'est lorsqu'il y a un décès dit à la fièvre hémorragique, on doit faire attention pour l'inhumation. En principe, on doit demander l'assistance médicale, les équipes d'hygiène et assainissement pour les assister pour l'inhumation. Parce que les toilettes mortuaires peuvent être aussi à la base de la contamination des personnes, de plusieurs personnes qui auront participé à ces toilettes mortuaires.
Docteur Vital Mondombe, merci.
Ok, merci beaucoup aussi. Thank you.
En plus bref, d'abord cette petite information, 6 fillettes de 9 à 12 ans sont mortes mercredi dernier, déchiquetées par un engin en explosé. Les faits se sont passés au village de Kanyunda, localité de Gikoro, groupement de Jomba, en territoire de Rutshuru. Nous sommes au nord Kivu. L'UNMA qui livre l'information rappelle aux populations de ne jamais toucher au reste des explosifs de guerre, tels que les bombes, les grenades et autres munitions dans le cas des faits. Il s'agit d'un accident selon les sources. L'une des victimes aurait utilisé un caillou pour tenter d'éclater la bombe et voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Les fillettes, elles, étaient en train de faire des chaises. Et puis, sachez que des officiers et inspecteurs de la police judiciaire ont suivi le jeudi 23 août dernier une formation visant le renforcement des capacités dans les domaines des violences sexuelles à Guémena, dans la province de l'Équateur. Une formation assurée par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Parlons enfin de la rentrée scolaire qui intervient dans 8 jours. En prévision de cet événement, à Kindu, dans la province du Maniema, l'UNICEF a lancé la semaine dernière une campagne de sensibilisation à l'inscription de tous les enfants en âge scolaire. Les parents cibles de cette campagne sont aussi invités à veiller pour que leurs enfants n'arrêtent pas la scolarisation en cours de l'année, comme c'est souvent le cas. Et pour atteindre cette cible, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance utilise notamment les médias et d'autres moyens de communication publique. Fin de nouvelles en bref. Merci de rester avec nous pour écouter ce dont va nous parler notre invité du jour.
Magazine des Nations Unies. L'invité. Le Centre de coordination de la lutte anti-mine, UNMAS, a lancé il y a 2 semaines, avec l'appui logistique de la MONUSCO, l'opération de destruction des engins non explosés au Nord Kivu. L'objectif est de dépolluer les zones concernées de ces engins et assurer la sécurité de la population. Kim Kilema Venans, officier des opérations UNMAS à Goma, fait partie de l'équipe d'experts sur le terrain et il s'entretient avec Jean-Pierre Elali Coco.
Monsieur King Kitema Venans, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes, et bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
UNMAC à Goma mène depuis 2 semaines une opération de destruction d'engins explosifs ou non explosés au Nord Kivu. De quoi est composée avant tout l'équipe d'experts et techniciens commis à l'opération sur place?
L'équipe d'experts commis aux opérations est composée des experts techniciens de mineurs qui ont été formés. On trouve dans l'équipe un expert international, un chef d'équipe, un adjoint chef d'équipe et puis 3 techniciens. En plus, nous avons un ou un infirmier, un corps médical, je veux dire. Et puis, nous avons un chauffeur.
Ok, c'est toute l'équipe. Où se passe exactement l'opération de destruction d'explosifs?
Les opérations de destruction des explosifs, donc les dépollutions se sont passées dans les territoires des Masisi, à travers une 40aine de villages, dont parmi les villages de Kingi, Mushake, Karuba, ainsi.
Et quel est le but de cette opération?
Le but de l'opération, c'est juste le nettoyage ou la dépollution des zones signalées ou rapportés contaminés par les explosifs de guerre, entendant par là les bombes, les grenades, les mortiers, ainsi de suite. Et c'est là pour sécuriser la population et l'environnement. C'est une mission qui vise à protéger les populations civiles contre les effets de guerre et des conflits armés.
Comment s'est fait la collecte et même la détection des engins avant leur destruction sur place? Comment ça se passe?
Oui, je préfère mieux d'abord commencer par la détection qui, elle, vient avant la collecte. La chaîne de détection commence par la chaîne d'information. Donc, il y a la population ou les autorités ou les organisations internationales, les agences des Nations Unies qui apportent les informations à l'UNMAC et dès là commence la chaîne de détection. Mais il peut arriver que les engins ou les zones qui sont signalées, on ne peut pas voir les engins visiblement et à ce moment-là, on peut utiliser les sondes mécaniques, on peut utiliser des détecteurs. Il existe aussi des chiens, détecteurs d'explosifs qu'on peut utiliser. À ce jour, il y a même une nouvelle technologie qui utilise des rats pour détecter les explosifs de guerre. Alors, sur la collecte ne peut se faire que par des experts techniciens. C'est pas n'importe qui peut se prévaloir aller collecter les munitions parce que ce sont des engins de mort. Ce sont des engins qui peuvent tuer, blesser, mutiler, poser beaucoup de problèmes dans la vie.
Lorsqu'on parle du Nord Kivu, on voit la guerre parce que la guerre se passe là. Il est difficile de détecter et même de collectionner ces engins. étranger dans un territoire plutôt des troubles comme le Nord Kivu.
Merci pour ça. La précision est que les activités de dépollution ne peuvent se passer que là où il y a un calme. Parce qu'en période de conflit, c'est difficile, c'est pratiquement impossible de le faire. Parce qu'au risque de confondre les activités de dépollution et les activités de guerre. Donc, la condition sine qua non pour mener les opérations de dépollution ou de nettoyage et de destruction des engins, c'est juste une période d'accalmie. Donc, je veux dire que les 40 villages à travers lesquels l'UNMAC a fait la dépollution, ce sont les villages qui sont sous contrôle des forces gouvernementales et où on suppose qu'il y a une certaine accalmie observée après les hostilités qui avaient pris effet à partir du mois d'avril dans ces territoires. Et donc, ces villages-là ne sont pas situés dans les contrées ou les parties qui sont occupées par les différentes.
Deux semaines après le lancement de l'opération, quel bilan faites-vous de cette opération de destruction?
Par rapport au bilan, je vais d'abord 40 localités ou villages qui ont été visitées et donc dépolluées, pour lesquelles on a, l'INOMAC a détruit 127 munitions, parmi lesquelles nous avons des mortiers 81 mm, des autres mortiers 60 mm, des roquettes, des grenades, ainsi de suite. C'est là le bilan après les deux semaines d'opération.
Quelle serait l'origine de ces engins? Est-ce que ça a été utilisé par les belligérants ou bien c'est tout simplement des engins qui ont été délaissés par la population?
Il faut indiquer que l'UNMAC n'est pas pour la première fois dans ces territoires ou à province du Nord Kivu et pas d'ailleurs au Congo. Ces engins sont ici des récentes hostilités qui ont commencé, qui se sont déclenchées en avril dernier.
Donc c'est entre les FARDC et les M23, c'est ça?
Affirmatif.
Et alors, vous n'êtes pas seul dans cette opération, vous êtes avec la MONUSCO. Quelle est l'implication de cette mission dans votre opération de destruction des engins non explosés?
La MONUSCO s'implique dans la collecte de l'information. Elle joue le rôle de liaison communautaire entre les populations affectées et l'UNMAC. Ça, c'est le premier rôle de la MONUSCO. Le deuxième rôle revient dans les soutiens sécuritaires. C'est-à-dire, en ces temps où il y a des hostilités remarquées par-ci, par-là, il est difficile que l'UNMAC puisse déployer des équipes sur le terrain si les conditions sécuritaires ne sont pas rassurées. Et donc, lorsque la MONUSCO plaide pour les populations, afin que l'UNMAC aille dépolluer les zones, l'UNMAC encore revient sur MONUSCO pour dire nous avons besoin d'escorte pour que nos équipes puissent se déployer en sécurité. Et la troisième, c'est qu'il arrive qu'il y ait besoin d'intervention, de dépollution dans des zones qui ne sont pas accessibles par route. Et là, l'UNMAC a besoin pour déployer ses équipes de vol.
Donc, si je peux comprendre, la MONUSCO vous prête ses avions et ou même ses hélicoptères pour aller sur le terrain.
Affirmatif.
Et alors, et quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur place? Et vous pouvez aussi, en même temps, très brièvement, parler des défis à relever dans ces domaines-là.
Oui, parmi les difficultés, nous avons, par exemple, les intempéries. Il ne faut pas qu'il y ait la pluie ou les tonnerres et qui engendrent aussi les foudres, parce que la destruction prend en compte des explosifs. Et là, on voit des charges électriques. À part ça, il y a la présence pendant qu'on fait les opérations, il peut surgir qu'il y ait des gens, des pasteurs, des fermiers, des gardiens, des troupeaux, qui viennent s'improviser dans le rayon du site de destruction. Qu'ils ne soient pas victimes des éclats, il faut qu'on puisse stopper, arrêter les opérations, attendre qu'il y ait encore une surveillance totale, voir s'il n'y a personne aux alentours, pour que ces opérations puissent se dérouler comme normalement. À part ça aussi, il y a des petits insectes qui arrivent à gêner la vue des opérateurs.
Oui, King, pour terminer, quel avantage peut tirer la population dans l'opération de destruction de ces engins de mort, si on peut les appeler ainsi?
Les avantages que peut tirer la population, c'est d'abord leur sécurité. Et donc, nous voyons le but de l'opération, c'est sécuriser les personnes et leurs biens. Je vais juste abréger que c'est la sécurité et la relance des activités socio-économiques.
Voilà. Monsieur King, qu'il est ma vénance. Je rappelle que vous êtes officier des opérations UNMAC, donc à Goma. Et je vous remercie.
Je vous en remercie aussi.
C'est le Katanga qui nous offre la nouvelle de province de ce dimanche. L'UNICEF a remis mardi dernier 3 écoles, dont un centre de rattrapage aux autorités scolaires de l'EPSP Katanga 3. Ce don est destiné aux déplacés du territoire de Kalemie. La Caritas Développement a exécuté la construction de ces trois ouvrages à hauteur de 163 000 dollars américains. La cérémonie de remise s'est déroulée dans les sites de Miketo, Sango et Lukwangulo. François Gazimibé nous raconte.
La Caritas Développement a réalisé pendant 8 mois les trois ouvrages construits dans le programme des écoles d'urgence avec les financements de l'UNICEF. Ces écoles, d'une valeur des 163 000 dollars américains, visent la scolarisation de 2600 enfants, dont 1040 filles des sites de déplacés. Les deux ouvrages de Lukwangulo et Miketo sont un ensemble de deux bâtiments de trois salles de classe avec un bureau chacun et de deux bâtiments de toilettes. Le centre de rattrapage de Sango dispose à lui seul de trois salles de classe. Il cible 1400 enfants, dont 600 filles de camps de déplacés. À ces ouvrages, la Caritas Développement a érigé 18 espaces communautaires d'éveil en paille à raison de sites par site pour la petite enfance. La remise des trois écoles des sites de déplacés, construites avec la participation des communautés des déplacés, rencontre l'assentiment de plusieurs enfants vivant au camp. À l'image de la petite Vumilia, 7 ans, qui espère devenir une femme enseignante. Ces enfants, comme leurs parents installés dans la région depuis 2010, proviennent du sud Kivu et des 6 autres localités du secteur de Wimbi, comme Kagoma, Kalusu, Kancha, Kiwe, Lumandie et Matete. Des secteurs miniers d'or et secteurs agricoles, aujourd'hui théâtre de l'insécurité à cause de la présence des FDLR. Des retours de Miketo, François Xavier Mibé, Radio Kapi. Magazine des Nations Unies. Portrait d'Isis.
Je m'appelle Xavier Faraï-Mandubois. Je suis présentement chargé de communication et visibilité à la FAO à Kinshasa. Et j'ai terminé à l'Université de Kisangani, à la Faculté des Sciences. Je suis microbiologiste. Et j'ai travaillé dans un laboratoire à la Sorgerie, une société qui fabrique des produits cosmétiques. De là, je suis allé comme coordonnateur d'une ONG qui s'occupait du planning familial. Je travaillais à la RTNC comme journaliste à la chaîne française. Et vers les années 2000, j'ai été recruté comme chargé de communication à l'UNICEF de Saint-Denis et je m'occupais de journée nationale de vaccination. Pendant 4 ans, jusqu'à fin 2003, je suis parti au CICR, jusqu'à fin 2005. Et puis je suis rentré encore à l'UNICEF pendant un an, pour s'occuper toujours cette fois de la communication. Et en 2006, quand mon contrat est arrivé à terme, on m'a recruté à la Radio Kapi. Je suis allé à la Radio Kapi Saint-Denis, juste en appui au processus électoral. En 2006 et en 2007, j'ai quitté la Radio Kapi et je suis allé à la FAO où je continue à assumer mes fonctions de chargé de communication jusque maintenant. Je suis marié, père de 4 enfants, je suis de nationalité congolaise. J'ai vraiment la passion de la communication depuis que j'ai fait le journalisme. Voilà pourquoi je pense que je vais m'atteler dans l'avenir à avoir une très bonne structure qui permettra aux gens de bien communiquer. J'aime de la musique, particulièrement les chansons religieuses. Alors, moi-même, j'ai composé des chansons quand j'étais dans des chorales. J'ai une chanson que j'ai toujours aimée. Je peux vous donner ça. Louons l'Éternel pour sa bonté infinie, pour sa miséricorde, pour son grand amour. Voilà. C'est ça.
Merci Xavier. C'est à présent au tour d'un auditeur de s'exprimer dans votre magazine.
Magazine des Nations Unies, de Sciences des Nations Unies.
Je suis Paul Mandiata, opérateur économique dans la ville du Matadi. Je sais que la microfinance fait partie des domaines d'action du programme des Nations Unies pour le développement. Ma préoccupation par rapport à ce sujet est de savoir quels sont les avantages de la microfinance pour les opérateurs économiques en particulier et la population en général dans un pays post-conflit comme la RDC.
Et pour vous répondre, Monsieur Madiata, nous avons joint un expert du programme d'appui au secteur de la microfinance au PNUD RDC, Mona Antayabalo, vous répond.
Alors, merci beaucoup à Radio Okapi et merci à notre cher auditeur, Monsieur Paul Madiata, pour sa question. Je pense tout d'abord qu'il serait bon de faire un très bref rappel de la microfinance hein, comme concept, comme en fait service financier de proximité pour des segments inférieurs du marché, pour des personnes qui n'ont pas accès aux services des banques commerciales classiques. Donc notre auditeur, Monsieur Madiata, nous dit qu'il a une préoccupation par rapport à ce sujet en se disant est-ce qu'il y a des avantages de la microfinance pour les opérateurs. Alors ma réponse est bien sûr oui. Le programme des Nations Unies pour le développement avec UNCDF et avec la coopération suédoise appuie actuellement sur initiative du gouvernement de la République du Congo le secteur de la microfinance à travers le PASNIF. C'est un programme qui est dans sa deuxième phase et qui va aller jusqu'en 2014. Elle appuie, le programme appuie le renforcement des capacités des prestataires de services financiers, de la Banque centrale à mieux faire son travail de supervision et de réglementation, et également de tout ce qui est association professionnelle du secteur ou tout ce qui fonde de l'assistance ou de l'appui technique au secteur. En faisant cela, le PNUD, l'UNCDF et la Suède, donc les bailleurs qui appuient le gouvernement, entendent bien dire aux opérateurs économiques qu'ils ont à leur disposition des outils qui peuvent accompagner leurs projets, comme fournisseurs en fait de ressources supplémentaires pour relancer leurs activités économiques, pour accéder à des services d'épargne, à des services d'assurance ou de transfert d'argent pour des investissements et accompagner leurs projets. Une fois qu'ils auront cet appui de la microfinance, ça peut être une COPEC, une IMF ou même une banque qui fournit ces services-là à l'opérateur économique, ils pourront créer de l'emploi, participer à la création de richesses dans le pays, à la reconstruction du pays grâce aux taxes qu'il va reverser à l'État et à partir de là, investir dans l'éducation de ses enfants ou avoir des revenus pour pouvoir améliorer les investissements dans son entreprise, accéder à des soins de santé et vraiment avoir un processus d'accumulation au sein des activités qu'il entreprend. Donc, on a tendance à dire que la microfinance s'adresse à tout type, en fait, de segments de marché, mais on va dire surtout parmi les populations pauvres, à ceux qui sont dans des exploitations agricoles familiales très petites, à ceux qui sont des tout petits micro-entrepreneurs qui font leur auto-emploi. Et on ne dit pas non plus que c'est la solution panacée ou miracle. Il faut que la personne ait au départ une connaissance de son emploi, de sa petite entreprise, une bonne connaissance de son métier pour pouvoir être accompagnée et pouvoir en plus générer des revenus pour rembourser le capital qui lui aura été prêté. Donc, en gros, voilà ce que je pourrais répondre à M. Madiata, qui est à Matali.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche, de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Okapi.
Un seul rendez-vous à noter dans votre agenda, c'est la poursuite dans la capitale des séances de sensibilisation sur le rôle et la mission de la MONUSCO en RDC. Le jeudi 30 août prochain, c'est le tour des jeunes de la commune de Ngiringiri d'en savoir plus sur le mandat de la mission onusienne dans une conférence débat qui sera animée par l'unité de sensibilisation de la division de l'information publique de la MONUSCO. Voilà tout pour ce dimanche. Et voilà, c'est la fin de ce numéro de votre magazine, une édition coordonnée par Jean-Pierre et Lali, Honoré Missinga a fait son reportage. Mireille Boukassa Moukendi vous l'a présenté. Merci à vous de l'avoir suivi. À la prochaine.